Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Catherine Dorion de Québec solidaire ne s'est pas jointe au groupe d'opposants à la vente à des intérêts privés de la Maison Chevalier, éminemment patrimoniale, cœur de la Place Royale. Ce geste surprenant, cette volonté d'avoir une position nuancée de la part de la députée, a suscité chez ses adversaires toutes sortes de théories que nous soumettons à Mme Dorion et à laquelle elle répond. On aborde aussi avec elle l'oubli du troisième lien dans le discours d'ouverture de mardi et on parle un peu de la campagne à la mairie de Québec. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour Rémi Nadeau.
Salut Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Commençons avec ce vaste chantier là, qui a été ouvert sur les services de garde.
Oui, donc le plan est dévoilé. Alors, 37 000 places qu'on veut construire, livrer en 3 ans et demi. Je sais que les fonctionnaires du ministère de la Famille avaient, à la demande de M. Legault, préparé un plan et qu'on voulait faire un plan sur 5 ans.
Oui.
M. Legault tapait sur la table en disant « Hey, vous allez me ramener ça à 3 ans ». Finalement, je comprends qu'il y a eu quand même une petite négociation parce que c'est 3 ans et demi. Alors, au printemps 2025, ce serait livré. Et pour y arriver, là, il y a toutes sortes de mesures. Monsieur Lacombe, le ministre de la Famille, avait déjà fait état là, d'étapes bureaucratiques qui étaient levées pour construire plus rapidement. On aura besoin de trouver 17 000 éducatrices. Écoute, c'est énorme.
Je te corrige, 17 800!
Oui, on va rajouter encore.
C'est terrible!
Alors ça,
mais là, je me posais la question ce midi avec Benoît Dutrisac, est-ce qu'il va y avoir une conscription? Alors qu'on oblige certaines femmes et certains hommes à être éducateurs, éducatrices en garderie?
Oui, bien écoute, on mise sur la hausse des salaires qui commence. Là. Il y a déjà un 12-17% qui a été annoncé immédiatement, mais la négo se poursuit. Il y aura une offre bonifiée. On mise aussi sur une formation en alternance là, où les personnes intéressées seraient une semaine en formation, une semaine au travail. Mais est-ce qu'on va y arriver? Écoute, ça, c'est ambitieux. L'autre chose aussi qui est importante, le gouvernement va se donner les moyens, j'en avais parlé à un moment donné, il va se donner les moyens de construire lui-même des CPE. Parce que on a constaté dans certaines régions, par exemple en Outaouais, la région du ministre Lacombe, où il y avait des appels de propositions, puis personne ne répond. Il n'y a pas de promoteur intéressé. Alors, le gouvernement veut lui-même construire des CPE, et ça veut dire aussi, donc, au départ, commencer à gérer là, ces éventuels CPE-là avant que, éventuellement, on puisse après ça les vendre ou les donner comme un contrat à gérer à quelqu'un. Alors, imagine ça, juste une petite parenthèse, ça me fait penser à ma récente chronique « L'État gonfle comme une ballonne ». Je pense que je pourrais faire un volume 2. Parce que tu te rends compte que la SQI qui construit des immeubles pour le gouvernement ou des infrastructures ne sont pas censés faire des petits projets. Là, on leur demande de plus en plus de faire des nouvelles écoles, des maisons des aînés. Si on leur demande de faire des CPE, je peux te garantir qu'ils vont avoir besoin de bras. Là. Eux aussi, ils vont devoir embaucher ou ce sera au ministère de la Famille qu'on devra embaucher.
En effet, on espère que ça va fonctionner parce que c'était une des clés là, pour redresser la démographie du Québec, les CPE, ça, puis les congés parentaux. Par ailleurs, Rémi, il y a eu une période de questions aujourd'hui et c'est l'heure de notre analyse sportive de la période de questions. Commençons par la Dale Hunter du jour. Ceux qui ont des références, comme toi et moi, ou nordiques des années 80, on sait c'est qui Dale Hunter. C'était un joueur, la petite peste, qui passait son gant au visage des adversaires. Et j'ai l'impression qu'il y a une joueuse aujourd'hui qui a fait ça.
Ouais, Dale Hunter savait se faire détester avec sa combativité extrême. Alors, c'est le cas de Geneviève Guilbeault aujourd'hui. Je pense que les libéraux l'ont pas trouvé drôle. Le porte-parole en matière de sécurité publique, Marc Tanguay, qui posait des questions sur ce qui s'est produit récemment lorsque notamment l'ex-maire de Terrebonne s'est retrouvé libre comme l'air après que l'UPAC ait encore une fois cafouillé dans le procès à son endroit et d'autres co-accusés. Et Marc Tanguay, en fait, il est quand même allé très loin parce qu'il suggérait, dans le fond, au gouvernement de mettre à la porte le numéro 2 actuel de l'UPAC, Sylvain Baillargeon, qui a été nommé sous le gouvernement caquiste.
Mais la question était légitime parce que ce qu'on dit de Sylvain Baillargeon, c'est qu'il a commis un affront à la justice. C'est les juges qui le dénoncent en ces termes. Donc, la question se pose. Et si c'est l'Assemblée nationale aux deux tiers qui nomme ces gens-là, ben, ce doit être aussi eux qui les congédient. Or, la question était là. En tout cas, je trouvais que la question était légitime, mais ce fut un boomerang. Oups.
Oui, bien, écoute, je pense qu'on va entendre. Oui. Rapidement, je te dirais que le problème, je trouve, c'est que Geneviève Guilbeault a fait comme si elle n'avait pas du tout à répondre précisément à cette question-là. Elle s'est mise à rappeler là, ce que le gouvernement de la CAQ a fait en arrivant, nommer aux deux tiers le commissaire, etc. Et après ça, elle a plutôt passé le gant dans le visage aux libéraux. On va l'écouter.
On a le pouvoir de le nommer. Lui, on a le pouvoir aussi de le destituer. Vous avez nommé le 18 mars 2020. Le gouvernement du Québec procède aujourd'hui à la nomination de Sylvain Baillargeon.
Et Monsieur le Président, s'il y a un parti qui a donné de l'ouvrage à l'UPAC au travers les années, c'est bien le Parti libéral. Fait que j'invite, venant de la part en plus du député de La Fontaine qui a été président du Parti libéral et qui succède.
Monsieur le leader, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Et Mme Guilbeault, même aussi, a dit plus tard, le Parti libéral entend nous parler d'intégrité, c'est un peu contre nature. Écoute, elle est allée très loin et ça a fait bondir les libéraux. Monsieur Paradis, le président, qui a été pris un peu en sandwich là-dedans, a demandé qu'elle retire ses propos. Ça a été un peu long, il y a une bataille entre les leaders. Faut dire aussi que, bon, Marc Tanguay avait utilisé le terme abérillé, là, que oui. Mme Guilbeault abérillait ce qui s'était produit à l'UPAC, mais c'était un peu parce que elle répondait pas. Alors, tout ça a tourné donc un peu en froid d'empoigne.
Ça a été une dure de période de questions. Il y a eu deux, trois moments comme ceux-là où le président Paradis avait l'air vraiment dépassé.
Oui, c'est ça, exactement. Et tu sais, je trouve que si la ministre de la Sécurité publique veut pas parler d'un élément qui s'est produit en cours, qui est un élément judiciaire, elle aurait très bien pu faire comme les ministres de la Justice font, et j'ai en tête Yvon Marcoux, parce que c'était un cas vraiment spectaculaire, le ministre de la Justice.
C'est un peu radical, ça, Rémi.
Non, mais tu te rappelles, il mettait ses mains ensemble comme d'une drôle de façon en chambre avec le sourire aux lèvres, et il disait, vous savez, je peux pas commenter les choses qui se déroulent en cours. Alors, elle aurait très bien pu faire ça sans distribuer des paloches là où ça fait mal aux libéraux et provoquer cette foire d'empoigne. Alors, on a assisté encore un peu un excès de partisanerie, je trouve, de la part de Mme Guilbeault.
En même temps, au gouvernement, on nous répondra que la CAQ était attaquée de toutes parts ce matin. Mais on peut dire que François Legault, tel un gardien de but, a bien arrêté les rondelles.
Oui, et un peu contre-attaqué à la question de Joël Arsenault, qui soulevait encore la problématique de la hausse des tarifs d'hydroélectricité, puisque la CAQ s'était engagée à réduire le fardeau fiscal des Québécois. Et donc, M. Arsenault le présentait comme un élément contre nature. M. Legault a rappelé qu'en campagne électorale, Jean-François Lisée prédisait que c'était impossible de réduire le fardeau fiscal des Québécois. Et donc, M. Legault s'est un peu amusé avec ça en disant « Le PQ est dur à suivre. Nous, on avait dit qu'on allait baisser les taxes scolaires, qu'on allait ramener un tarif uniforme en garderie, qu'on allait augmenter l'allocation pour enfants. » Diminuer le tarif de stationnement dans les hôpitaux. Bon, alors, bref, il a eu beau jeu de dire que tout ça a été fait en début de mandat par la CAQ. Ça n'empêche pas que là, présentement, on assiste effectivement à une hausse du tarif d'hydroélectricité, mais M. Legault s'est bien défendu quand même sur ce point-là, en démontrant qu'il avait remis beaucoup d'argent. D'ailleurs, il avait chiffré récemment 2,3 milliards d'argent qu'il avait retourné dans les poches des Québécois.
Le coup de cochon du jour maintenant, Rémi, quel est-il?
Lorraine Richard a posé des questions à Marguerite Blais.
La députée péquiste de la Côte-Nord.
Oui.
Qui est toujours enflammée.
Oui, toujours enflammée, effectivement, sur les soins à domicile. Et Marguerite Blais, en répondant, a dit « C'est facile de se lever et de chialer. » Et ça aussi, ça a provoqué encore une fois des remous dans les banquettes au Salon Bleu. M. Paradis s'est levé encore une fois pour faire attention, etc., pour imputer les motifs. Mais là aussi, je trouve que dans le fond, Mme Richard aurait très bien pu, parce qu'on demande souvent aux partis d'opposition d'être constructifs, de présenter des solutions, de présenter des idées. Le PQ l'a fait. Mme Richard, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef, ont rencontré Patrick Bellerose du Journal de Québec pour donner leur plan de match en vue justement de répondre au vieillissement de la population, et c'est de tripler les heures en soins à domicile. Ils voudraient augmenter à terme sur 5 ans le budget en soins à domicile à 2,7 milliards de plus et donner des services à la carte. Et comme ça, donc, les gens pourraient vieillir à domicile, même en légère perte d'autonomie, sans être obligés d'être dans des CHSLD. Alors, c'est constructif, c'est une idée intéressante. Elle aurait pu l'amener à travers sa question, mais elle a plutôt préféré, je dirais, attaquer Marguerite Blais en disant « Qu'est-ce que vous avez fait depuis 10 ans? » Puis là, la faire passer pour quelqu'un qui a dormi au gaz. Et c'est ce qui a amené, d'ailleurs, donc cette réplique cinglante de Marguerite Blais. Alors, tout ça était peut-être un peu mal parti au départ, mais ça a amené, comme je disais, encore un peu excès de partisanerie.
Et là où Lorraine Richard, soulignait quelque chose d'important, c'est que le gouvernement va encore faire une étude sur les soins à domicile. Puis, comme l'a dit en caricaturant Lorraine Richard, il y en a eu des rapports sur le sujet, 17 au moins en 20 ans. Et c'est vrai là, que des rapports sur les aînés, sur la manière de les garder chez eux, ceux qui veulent rester chez eux, ceux qui peuvent, il y en a eu énormément.
C'est clair. Moi, au discours inaugural, j'ai trouvé que sur ce point-là, on pelletait par en avant en demandant à la commissaire à la santé et au bien-être de produire des recommandations. J'ai trouvé que c'était un point faible du discours inaugural. Et c'était bien aussi, effectivement, que le PQ l'exploite et en amenant sa proposition. Alors, au moins, ben, c'est ça. Ils ont amené quelque chose là qui peut faire l'objet de discussion pour la suite. Et c'était une période de questions assez orageuse qui ressemble des fois à celles auxquelles on assiste en fin de session parlementaire.
Faut pas oublier qu'on est un jeudi. Souvent, les jeudis, les députés sont prêts à partir à la maison puis ils ont envie d'en découdre avant d'aller se reposer la fin de semaine. Merci beaucoup, Rémi Nadeau.
À demain.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
La vente de la très patrimoniale maison Chevalier au groupe immobilier Tanguay à Québec, une maison qui est vraiment en plein cœur du quartier de la Place Royale, ça crée énormément de remous. Même deux anciennes ministres de la Culture, Agnès Maltais et Christine Saint-Pierre, s'indignent. Une pétition a été lancée pour que la transaction soit annulée. Cette affaire se produit dans le comté de ma prochaine invitée, qui est aussi critique de sa formation politique Québec solidaire en matière de culture. Bonjour Catherine Dorion.
Bonjour Antoine.
Quelle mouche vous a piqué, Catherine Dorion? Vous êtes favorable à cette vente? C'est surprenant, étant donné vos élans chevaleresques pour le patrimoine.
Je ne suis pas favorable à cette vente. Ça serait aller un peu loin, là, mais moi, je suis d'accord avec beaucoup des critiques de cette vente-là, que ça aurait pas dû se passer comme ça, que ça aurait dû rester dans le giron public, que ça aurait dû continuer d'appartenir, après tout ce que le Bloc québécois a investi là-dedans, ça aurait dû continuer à nous appartenir. Par contre, quand j'ai vu toute cette un peu ce scandale qui est sorti dans les médias, en tant qu'habitué du scandale moi-même, je me suis dit il doit y avoir une autre réalité beaucoup plus nuancée en dessous de ce qui se passe. Puis comme ça se passait dans mon comté, je me suis dit je peux pas juste réagir vite en me disant ah mon Dieu, tout le monde sort contre ça, moi aussi je vais sortir contre ça. Puis à part de ça, la ministre, je l'aime pas, fait que on va taper dessus. J'ai contacté tout le monde, on a parlé aux initiateurs de la lettre, on a parlé au Musée de la civilisation qui procède à la vente, j'ai parlé au groupe Tanguay, j'ai parlé aux locataires, au Centre de valorisation du patrimoine vivant qui est locataire de la bâtisse. Puis tu sais, comme toujours, à chaque fois qu'on creuse vraiment plus, la réalité est beaucoup plus complexe. L'histoire, c'est que en 2015, la Maison Chevalier a été fermée au public. Il y a eu des coupes là, autour de ces années-là qui ont été faites par le gouvernement de Philippe Couillard. Christine Saint-Pierre était ministre à cette époque-là. Et il y a eu des coupes qui ont des coupes drastiques, là, radicales, comme on sait que le Parti libéral est capable d'en faire, qui ont obligé le Musée de la Civilisation, qui gérait la Maison Chevalier, à la fermer au public, qui l'ont obligé aussi à la mettre en vente. Puis le Musée de la Civilisation a vraiment fait ses devoirs. Il a essayé autant comme autant depuis 4 ans là, que la maison est en vente à trouver un acheteur public, la SODEC, la Ville de Québec, quelque chose qui appartienne au public. Ils ont essayé, il y a eu des potentialités, mais finalement, ils sont tombés à l'eau. Que le musée, en pleine pandémie, avec beaucoup de difficultés de que tout le monde vit par rapport à la pandémie, n'est pas arrivé à trouver un acheteur public. Et ils sont tous désistés, qu'est-ce que tu veux? Puis ils tombent sur...
Mais un instant, pourquoi pas laisser ça comme un musée? Garder ça comme un musée?
Ben oui, il aurait fallu. Ben, il aurait fallu, mais là...
Quand j'étais tout petit, moi, je me souviens, c'est la première maison qui a été transformée dans... Ça a donné l'élan au projet de Place Royale. Et quand on était petit, là, à l'école, on allait visiter moi, la Maison Chevalier.
Aussi, pourquoi? Je me souviens, puis ça m'avait beaucoup marqué, d'ailleurs. C'était vraiment une maison qui est importante, puis c'est un musée qui est important. Mais une fois que les coupes sont faites, une fois que ça fait 4-5 ans que c'est en vente, puis que c'est fermé au public, puis qu'en ce moment, là, 65 à 70 % de la maison, là, c'est déjà des bureaux. C'est déjà des bureaux occupés par des organismes qui, depuis 4-5 ans, ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'ils savent pas quand la maison va être vendue. Est-ce que je vais me faire foutre à la porte 2 semaines plus tard? Est-ce que je vais pouvoir continuer à organiser des événements dans les voûtes de la Maison Chevalier, des organismes en culture qui passaient à travers le Centre de valorisation du patrimoine vivant? Ils ont eu très, très peur de perdre leur accès à ces voûtes-là. Et là, ce que dit Groupe Tanguay, c'est nous, on veut garder cet accès-là, on veut valoriser cette place-là, on veut que le public y ait encore plus accès qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que là, moi, ce que je vois, c'est des acteurs...
Mais pourquoi pas garder ça comme un musée? C'est ça, mais je reviens
oui,
sur ma question.
Mais vas-y. Allons-y, Antoine, convaincons la ministre de la Culture qui a de la misère à citer des bâtiments qui sont exceptionnels puis qui sont sur le bord d'être démolis puis qui vont. Il y a la maison Bignel à Québec, on n'arrive pas, elle est en train de mourir, elle est presque déjà rendue à terre puis on n'a pas réussi à la sauver. C'est un travail de tous les instants de faire en sorte que le gouvernement s'intéresse au patrimoine. Alors, quand une institution comme le musée est qui dit, ben là, moi, je m'excuse, mais j'en ai pas de solution. Il n'y a personne dans le public qui vient l'acheter, la maison. Fait que je me retourne vers une entreprise qui n'est pas un gros conglomérat qui pense juste au cash, qui fit je ne sais pas où en Europe ou je ne sais pas trop quoi, puis qui ne sait même pas c'est quoi Québec. Là. On parle d'une entreprise qui est quand même pas si pire et assez impliquée dans la communauté. Fait que là, ils vendent, eux autres, il y avait ça sur les épaules, ils trouvent une solution. Les groupes qui étaient dans la maison disent, bon, on n'a plus l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sur le terrain, c'est un moindre mal. C'est pas l'idéal. Moi, j'en conviens avec vous que, tu sais, c'est dommage. Mais le mal, il est arrivé quand les libéraux ont coupé. Christine Saint-Pierre était ministre à ce moment-là.
Je vous soumets les explications que certains font anonymement sur votre position. Certains disent qu'elle doit avoir des liens avec les Tanguay.
Ben oui, c'est toujours ce qu'on dit.
Catherine Dorion vient d'une grande famille de Québec et les grandes familles de Québec, ça sait s'entendre à un moment donné.
Bon. OK, je vais rectifier certaines choses. Ça, des fois, je le vois sur ma page Facebook. Je m'appelle Catherine Dorion. La famille Dorion est une famille importante à Québec. Moi, j'ai été élevée par ma mère seule. Ma mère était monoparentale. Okay. Et malgré tout l'amour que je porte pour mon père, qui m'a beaucoup aimé, mais que je voyais pas souvent, il a fallu que ma mère se batte pour avoir sa pension alimentaire.
Ah oui.
On n'est pas du tout dans la situation que les gens s'imaginent. Et là, ça, tu sais, c'est pas, moi, je veux pas que ça fasse les nouvelles ou quoi que ce soit. Je veux pas miser là-dessus. Je veux juste rectifier parce que ça m'énerve quand on dit ça. Mm-hmm. Puis, malgré tout ça, je garde beaucoup de respect pour la famille Dorion, pour mon nom. Je suis fière quand même, mais j'ai pas du tout les contacts qu'on s'imagine que j'ai. Bon. Chose rectifiée. Mm-hmm. Ensuite, moi, le seul contact que j'ai eu avec Groupe Tanguay, c'est le téléphone que j'ai eu cette semaine au niveau de la, je veux dire, au sujet de la Maison Chevalier. La seule affaire, le seul contact que j'ai eu, c'est ça. Puis, je suis capable de faire la part des choses. Moi, je suis pas dogmatique. Je déteste le privé. Ils sont tous méchants.
Oui, on avait l'impression.
Ben, ça, c'est des préjugés.
L'autre explication, c'est que Agnès Maltais, l'ancienne ministre de la Culture et ancienne, aussi députée de Taschereau pendant très longtemps, du Parti québécois, elle vous a comme doublé dans la contestation de cette affaire-là. Ça, je l'entends aussi. Elle est fâchée, Catherine Dorion, d'avoir été doublée par Agnès Maltais, donc elle trouve une autre position qui va lui permettre de se démarquer. Je vous donne ce qu'on me dit, là.
Oui, ben non, je ne sais pas. Moi, je non.
Auriez-vous aimé être invité par Agnès Maltais à faire partie de la conférence de presse qui s'est tenue devant la Maison Chevalier?
Ben, j'aurais eu le même malaise. J'aurais eu le même « Oh, attention, t'sais, moi, je veux parler à tout le monde. » Puis je l'aurais fait avant de m'exprimer là-dessus. Puis ça arrive souvent que des groupes nous appellent et disent « Hey, il se passe ci, viens à notre rescousse. » Je dis « Écoute, je vais m'informer. Je comprends vraiment que tu es... » La lettre, les citoyens qui sont sortis, moi, je partage au complet leurs craintes, leur déception, leur tristesse et même à un certain point.
Mais les citoyens et les experts, Catherine Dorion, il y a Michel Côté, l'ancien président, directeur général du musée. Il y a Luc Nopen ce matin. Je veux dire.
Antoine, oui. Ben oui, Antoine, ce qui est important de comprendre, là, c'est que je suis pas. On est dans une discussion peut-être un peu polarisée entre certains acteurs. Moi, je suis pas sur un pôle ou sur l'autre. Ce que je dis, c'est que j'ai fait l'enquête pour avoir la position nuancée que je voulais avoir en tant que député de Taschereau. Tu sais, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait que le Vieux-Québec, en ce moment, il y en a pas ben des travailleurs qui font vivre les commerces locaux dans le Vieux-Québec qui permet de... Tu sais, il y a que la Maison Chevalier était vide, là, depuis quelques temps, depuis pas mal de temps. Il y a pas mal de choses qui font que c'est... Moi, je partage avec les signataires et les experts le fait que ça aurait jamais dû se passer comme ça, le fait que ça aurait dû rester dans le giron public. Tout ça, là, je suis d'accord avec ça. Mais là où je veux avoir une position nuancée et ce qui, d'après moi, est une position de député de Taschereau, c'est que il y a une situation qui est intenable. Puis que là, on a trouvé une solution qui était vraiment pas la meilleure pour un bâtiment de cette importance-là. Mais dans les circonstances, je pense qu'on il faut se scandaliser de ce qui s'est passé il y a 4 ans, de ce qui s'est passé il y a 5 ans, puis il faut regarder en ce moment là, c'est quoi les bâtiments dans l'avenir qu'on va vouloir garder public, puis à quels critères aussi, parce qu'on peut aussi chialer, puis moi je suis de cet avis-là, chialer sur le fait que c'est la ministre qui décide oui ou non ce bâtiment d'importance peut être vendu ou pas, mais elle a pas de critères, c'est selon son bon vouloir. Ça, pour moi, c'est problématique. T'sais. Puis ça fait partie aussi de ce qui est dénoncé là. C'est, ouais, tu passes sur quoi pour dire que c'est correct? Mais en même temps, s'il n'y a pas d'acheteur public, on fait quoi?
Ben, on en fait un musée. Moi, je demeure
ben,
là-dessus.
Je serais d'accord. Moi, si nous, CQS, c'est au pouvoir, là, puis je ne sais pas si tu en avais entendu parler, notre proposition de « C'est parc patrimoine ». Mais il y aurait ça, c'est inspiré de choses qui se passent en Espagne, en Portugal et qui ont vraiment marché. Les touristes, là, ils aiment venir au Québec dans les endroits où il y a encore l'espèce d'essence patrimoniale, où on a, c'est bon, on sait que c'est beau, les gens... Il y a plein de bâtiments partout au Québec qui pourraient être achetés à l'État, repris par l'État, et transformés en hôtel, en gîte, en auberge, où les gens pourraient réserver comme à la CEPAC.
Oui.
Ça s'appellerait la CEPAC patrimoine, ça serait géré par la CEPAC. Puis, on pourrait s'entendre avec, je sais pas moi, des étudiants du THQ pour qu'ils viennent gérer, organiser ça aussi.
Donc, on pourrait faire ça avec la Maison Chevalier.
On aurait pu faire ça avec la Maison Chevalier. Et la bonne nouvelle, c'est que, à cause de comment la loi sur le patrimoine est faite, quand le groupe Tanguay va vendre la Maison Chevalier, il pourra pas plus la vendre à qui il veut. Puis, il y a des prescriptions qui font en sorte que, mettons qu'il veut la vendre, il est obligé de l'offrir d'abord à l'État. Puis l'État peut toujours, même si la maison ne lui appartient plus, peut toujours bloquer une vente, peut toujours racheter au prix qui avait été entendu la Maison Chevalier. Tu sais, on demeure en contrôle de cette maison-là. Moi, j'aimerais que dans l'avenir, des joyaux aussi importants que la Maison Chevalier puissent pas être vendus au privé. Puis ça, c'est important à retenir de ma position. La seule affaire, c'est que dans la situation qui nous concerne là, tu as plein d'organismes qui étaient dans un truc de flottement qui, d'après moi, ne peut pas durer plus longtemps.
Okay.
Sauf que l'idée de ces pactes patrimoine, c'est qu'on pourrait faire ça pas juste dans des endroits comme le Vieux-Québec. On pourrait faire ça à Saint-Casimir, on pourrait faire ça à Berthierville, on pourrait faire ça à Chambly, on pourrait faire ça à plein d'endroits où il y a des racheter des immeubles, des patrimoniaux, puis les convertir en quelque chose qui finalement coûterait pas de l'argent à l'État, mais en rapporterait à long terme.
Mm-hmm.
C'est l'exemple que l'Espagne et le Portugal ont démontré.
Parlons du troisième lien maintenant, parce qu'il passerait peut-être en dessous de la maison Chevalier s'il se fait un jour. Vous avez posé une question très théâtrale l'autre jour sur le troisième lien. Pensez-vous que le gouvernement est effectivement en train de... Parce qu'il n'y en était pas question dans le discours d'ouverture de François Legault. Pensez-vous qu'il est en train d'abandonner tranquillement ce projet-là?
C'est dur à dire. J'ai essayé d'avoir la réponse. Pourquoi ils ont choisi de ne pas en parler dans le discours d'ouverture du premier ministre? Moi, j'y vois un signe qu'ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion publique là-dessus. Je pense qu'ils étaient au courant, la Coalition Avenir Québec, que ce projet-là était nuisible dans l'avenir pour la congestion routière, nuisible dans l'avenir pour les GES. Quand on dit les pas les études, là, c'est une game, en fait. Je pense qu'ils les lisent.
Mais attendez, Catherine Dorion, moi, j'ai noté une de vos phrases tantôt. Quand on creuse, la réalité est beaucoup plus complexe.
Oui,
est-ce que c'est
ça.
Plus complexe, donc, le troisième lien? Est-ce qu'il y aurait peut-être des bons côtés ou, comme M. Bonnardel vous dit tout le temps, écoutez, le peuple en majorité est favorable dans la région de Québec à ce projet.
C'est pas vrai, là. Ça, c'est pas vrai que les gens sont en majorité favorables. Il y a des sondages qui sont faits de... C'est sûr que quand les sondages sont commandés par des militants pro-troisième lien, les questions sont... Les questions, le moment du sondage, tout ça, tu sais, on connaît tout ça, non? C'est en politique, là, c'est bon. Mais oui, là où la réalité peut être plus complexe, c'est que c'était un bon enjeu électoral pour eux. Ça leur permettait de demeurer populaire dans la région de Québec. Mmh. C'est un peu comme le swing state du Québec. T'sais. C'est important pour électoralement. Là, est-ce que l'enjeu du troisième lien a cessé de jouer ce rôle-là? En vue de quand même, il y a eu une levée de bouclier dans les médias qui a été assez importante. Il y a eu une levée de bouclier aussi au niveau citoyen qui a été assez importante, au niveau des experts, au niveau, tu sais, il n'y avait pas grand monde, à part les alliés naturels, là, qui sont Gilles Laurier, la Chambre de commerce de Lévis, qui étaient enthousiastes. Mm-hmm. À un moment donné, ça finit par, et bien évidemment, certaines radios privées de Québec. Donc, c'était difficile pour eux d'aller plus loin que où ils étaient rendus, puis ils perdaient du terrain tranquillement dans l'opinion publique. Je pense qu'ils se sont dit, l'appui est encore là, mais l'appui n'est pas aussi fort pour que ça soit si valable que ça pour nous électoralement, puis ça leur coûte quelque chose. Ça, là je suis en train de faire ma Nostradamus, je ne suis pas dans leur tête, puis je ne suis pas dans leur réunion de com. Fait que moi, ce qui est sûr, c'est que cet enjeu-là, tant qu'ils n'auront pas dit on l'abandonne, je vais me battre pour qu'il n'arrive pas parce que ça serait trop dommageable pour la région de Québec et même pour le développement de Lévis. Fait que c'est sûr qu'il faut continuer à se battre contre ça tant qu'il ne sera pas abandonné. Ceci dit, j'ai l'optimisme de dire que je sens un essoufflement de leur part.
Que pensez-vous des débats actuels pour la mairie de Québec, notamment autour des arbres et du tramway? Avez-vous peur qu'on coupe des arbres pour faire le tramway? Moi, j'ai peur. Sincèrement, là, j'aime mes arbres sur la rue René-Lévesque, sur le boulevard René-Lévesque, ouais. Même si je n'haïs pas ce projet-là, là, évidemment. Mm-hmm. Mais craignez-vous ça, vous qui... Tu sais, c'est quand même un patrimoine naturel.
Oui, c'est... Je vous préviens tout de suite là, que je n'irai pas dans les détails sur la campagne municipale. Ça ne me tente pas de... J'ai décidé que je ne ferai pas d'appui public. Là.
Mais oui.
Mais ni de... Bon.
Même s'il y a des pancartes oranges assez Québec solidaire dans leur esprit.
Ça, c'est eux, c'est pas moi. Là. Je n'ai pas été ça. Écoute, n'importe qui peut dire qu'il m'aime, là, mais l'inverse, c'est moi qui contrôle. Fait que, sauf que les arbres, c'est un enjeu. Après, il y a toutes sortes d'enjeux de comment on fait pour creuser dans une rue sans toucher à des racines, en faisant en sorte que ces arbres-là ne tombent pas malades. Je sais que c'est très, très, très complexe. Puis quand je me suis dit, coudonc, c'est quoi cet enjeu? Puis j'ai voulu creuser, je me suis dit, c'est pas si simple que ça. Il y aurait des moyens peut-être de sauver les arbres, c'est lesquels j'ai pas été, tu sais, avec ma tome de dossier à l'Assemblée nationale.
Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de citoyens qui viennent vous voir et qui disent c'est terrible qu'on coupe des arbres en Haute-Ville.
Oui, oui. C'est terrible. C'est un enjeu complexe, très complexe, puis pour chaque arbre qui.
Et vous, votre recommandation, quelle est-elle? Est-ce que vous faites des représentations pour que ça ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas cet abattage d'arbres massifs?
Non, on n'est pas. Je ne fais pas de représentation en ce moment là-dessus.
OK.
Je suis sur d'autres dossiers. J'ai pas. Si les citoyens m'appellent en masse, là, puis on va prendre la peine de. Tu sais, je veux dire, nous, on reçoit des dizaines, parfois des centaines de courriels là, dans une semaine, mm-hmm. une journée. Là, fait que, évidemment, on se penche sur ceux qui sont les plus mobilisés. Tu sais, puis c'est. Mais c'est ce que je me souviens de la discussion avec les recherchistes, c'est que c'était comme, hey, il y a comme un moyen, on peut peut-être enlever une voie d'automobile.
Oui, c'est ça.
Des sens uniques, puis c'était comme, j'étais vraiment craqué là-dessus, puis moi, c'était game de sortir, puis on m'expliquait, écoute, tous les experts qu'on a contactés ou qu'on connaît sont comme, c'est compliqué, tu sais.
C'est ce que Jean Rousseau dit, comme un des candidats à la mairie, qui dit, si on enlève une voie automobile, on peut sauver beaucoup d'âmes.
Ben, moi, c'est... Là, j'avoue que je ne sais pas. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est je ne le sais pas. Des gens, des experts ont dit je ne sais pas, c'est plus complexe. Fait, écoute, je ne peux pas t'en dire plus que ça.
C'est bien. Merci infiniment, Catherine Dorion, pour cette conversation. Et je retiens une phrase très importante de cette conversation. Plus on creuse, plus la réalité est complexe.
Oui.
Merci infiniment.
Salut.
Catherine Dorion est députée de Québec solidaire de Taschereau. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.